en gloire à Dieu pour les prières, pour l'étude de ce soir, pour prier aussi pour Pasteur Yves à son retour aussi également ce soir, que savoir de la protection. Je rends gloire à Dieu que notre frère Jonathan s'est proposé pour être secrétaire de l'Église, que Dieu le bénisse abondamment pour le travail qu'il va faire. Aujourd'hui, l'étude s'intitule « Les miracles de Jésus ». Ce soir, on remonte dans le temps. Ça fait maintenant plus de 2000 ans que sur des chemins poussiéreux de la Galilée, il y avait un homme qui marchait parmi les foules. Cet homme n'avait ni richesse, il n'y avait pas de couronne, il n'y avait pas de palais, il n'y avait pas de château. Il y avait vraiment, c'était un homme ordinaire à la vue des hommes. Mais là où il passait, les yeux s'ouvraient, les morts se relevaient et les vies changeaient à jamais. Amen. Son nom est Jésus.
Amen.
Fils de Dieu et fils de l'homme, il est venu révéler un royaume qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se reconnaît par des signes qu'il laisse dans nos cœurs. Amen. La Bible nous parle de miracles. On parle de guérison, de délivrance, de multiplication, d'apaisement, de résurrection. On va parler un petit peu de tout ça ce soir. Mais ces miracles-là, tous les miracles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis je suis certain que ceux qu'on a dans la Bible, c'est juste un petit échantillon de tout ce que Jésus a fait comme miracle. C'était pas un spectacle, c'était pas un spectacle pour émerveiller la foule, pour intéresser les gens qui entouraient Jésus. Mais chaque miracle, c'est une instruction pour nous aujourd'hui. Une instruction pour tous ceux qui voient la force de Jésus dans les miracles qu'il fait. Quand Jésus tend la main vers un malade, c'est pas seulement le corps du malade qu'il relève, c'est aussi sa dignité qu'il restaure. Là où le monde voit une blessure, Jésus, lui, voit une personne. Et vous savez, souvent, lorsqu'on a un problème, quelqu'un qui a un handicap, comme par exemple une personne non-voyante, souvent on la décrit, cette personne-là, comme, tu sais, là, le non-voyant, ou tu sais, la personne là, qui a tel problème. Fait que souvent, c'est ça qui définit la personne. Souvent, c'est cet handicap-là, ou une cicatrice, c'est un bon exemple aussi. C'est ça que l'être humain voit en premier. Il voit vraiment la blessure puis les problèmes. C'est ce qu'il regarde. Mais Jésus, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Il va au-delà de ces problèmes-là, puis il voit vraiment la personne. Là où tout semble perdu, il fait grandir une espérance nouvelle. À travers chaque signe, Jésus nous invite à croire que Dieu n'est pas loin. Aujourd'hui, il marche encore à nos côtés. Puis lorsque nos forces s'épuisent et que nos cœurs s'attendrissent, les miracles continuent de se répéter à chaque fois que notre cœur s'ouvre, à chaque fois qu'un pardon est donné, à chaque fois qu'une paix revient là où a régné la tempête. C'est les miracles qu'on voit de nos jours. À chaque fois que quelqu'un accepte Christ comme son sauveur, c'est un miracle aussi. Puis on sait qu'avec la prière, on peut accomplir beaucoup de choses avec des personnes qui sont malades. On l'a expérimenté à même l'Église. Donc, c'est pas le même genre de miracle qu'il y avait dans le temps, mais on voit la force de Dieu au travers de tout ça. On va débuter avec les miracles de guérison. Partout où Jésus passait, les malades s'approchaient de lui. Les aveugles tendaient la main, les paralytiques rampaient jusqu'à ses pieds, les lépreux s'approchaient de Jésus, même si c'était interdit aux lépreux de toucher puis de s'approcher des gens qui n'ont pas la lèpre. C'était même interdit qu'ils touchent ne serait-ce le vêtement de quelqu'un. Jésus, ça ne détourne jamais de qui que ce soit. Quand il voit la souffrance, on peut voir toute la compassion qu'il peut avoir. Quand il a croisé le lépreux, il s'est écrié, c'est le lépreux qui a crié ça. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus ne se contenterait, s'est pas contenté de dire un mot, car on sait, juste avec une parole de Jésus, il aurait pu guérir le lépreux. Mais Jésus a touché cet homme que personne voulait toucher, que tout le monde s'éloignait de cette personne-là. Pour Jésus, ça dérange pas. Il voyait le cœur de la personne, il voyait sa foi. Puis, il a démontré comme quoi qu'il a touché le lépreux. Et dans Lévitique 13, verset 45, c'est écrit, « Le lépreux atteint aura ses vêtements déchirés, la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Il habitera à l'écart hors du camp. » Avoir un contact avec ce qui était considéré comme impur rendait impur toute personne qui le touchait. Mais Jésus toucha le lépreux. Et dans ce geste, il guérit plus que le corps du lépreux. Il lui rendit sa dignité et il lui rendit la vie. Une fois guéri, cet homme a retrouvé le bonheur d'avoir une vie normale avec les gens qui l'entourent. Mais ce miracle n'est pas seulement pour cet homme, c'est aussi pour tous ceux qui regardaient alentour, tous ceux qui doutaient qu'un tel amour puisse exister. Donc, ça a été un bon témoignage pour tous ceux qui l'entouraient. C'est sûr que les gens qui suivaient Jésus, il y en a qui c'était pas pour les bonnes raisons, mais après avoir vu, c'est vraiment une belle leçon de vie de voir ça, parce que personne veut s'approcher des lépreux, mais Jésus, lui, ça ne le dérange pas, puis au lieu, c'est pas Jésus qui devient impur, au contraire, c'est le lépreux qui devient impur. En voyant Jésus poser la main sur le lépreux, les témoins ont compris que le royaume de Dieu ne repousse pas les blessés, les gens de mauvaise vie. Il les accueille, les restaure et les fait participer au plan de Dieu. On a également un autre exemple, on connaît très bien, avec la femme atteinte de perte de sang qui a touché les vêtements de Jésus. Il y avait une grande foule et plusieurs personnes touchaient Jésus. Il se faisait brasser, on sait comment c'est dans une grande foule. On se fait bousculer d'un bord puis de l'autre. Surtout si c'est la personne qui est mise en valeur, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va se faire bousculer par plein de gens. Comme je disais tantôt, il y en a qui étaient là pour le spectacle. Mais cette femme-là n'était pas là pour le spectacle. Jésus aurait pu continuer son chemin, pressé par la foule, mais il se retourne et demande « Qui m'a touché? » Jésus voulait voir le visage de la personne qui l'a touché. Puis, en même temps, il y avait peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes qui le touchaient en même temps, mais il a senti une énergie de sortir quand cette femme-là l'a touché. Donc, l'intention de cette femme-là, c'était pas la même que l'intention de tous les autres personnes qui étaient alentour. Parce que pour Jésus, guérir, c'est pas seulement ôter la douleur, mais c'est de rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Ça, c'est les miracles de guérison. J'en ai juste sélectionné deux, mais il y en a vraiment plusieurs dans la Bible. Les miracles sur la nature, on en connaît plein. Un jour, sur la mer de Galilée, les vagues se levèrent et le vent se mit à souffler très fort. Le ciel devient sombre, les nuages arrivent et la barque des disciples est secouée dans tous les sens. L'eau commence à entrer et les disciples rament de toute leur force. Faut pas oublier que c'est des pêcheurs d'expérience. Ils connaissent très bien la mer. Puis ces tempêtes, sont habitués, c'est leur travail au jour le jour. Donc, j'imagine que s'il y avait peur cette fois-là, ça devait être toute une tempête. Puis, pendant ce temps, Jésus dormait. Au beau milieu de la tempête, il dort, paisiblement. Les vagues frappent la barque, mais Jésus, lui, reste calme. J'aime beaucoup cette image parce que lorsque tout semble hors de contrôle pour nous, Jésus, lui, ne panique pas. Les disciples ont réveillé Jésus en criant, « Maître, ne vois-tu pas qu'on est en train de mourir? » Jésus se lève, regarde la mer déchaînée et parle d'une voix ferme, « Silence, tais-toi! » Et tout de suite, le vent tombe. la mer se calme et un grand silence remplit l'air. Le calme après la tempête. Les disciples, complètement étonnés, se regardèrent et se demandèrent, « Mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? » Ce miracle nous montre que tout dans la nature reconnaît la voix de Dieu. Le vent, la mer, les tempêtes, tous les éléments lui obéissent. C'est sûr, parce que c'est lui qui les a créés. La même voix qui a dit que la lumière soit au commencement, c'est cette voix qui apaise les vagues. Et cette voix, elle parle encore aujourd'hui dans nos vies. Parce que nous aussi, nous avons nos tempêtes. Parfois, à l'intérieur de nous, tout se met à brasser. On a peur, on s'inquiète, on perd le contrôle. Notre cœur devient comme une mer agitée. Des fois, on oublie que Jésus est là, tout près, dans la barque. On essaie de tout régler par nos propres forces, mais les vagues sont trop fortes, puis on panique. Mais quand on se retourne vers lui, quand on dit simplement « Seigneur, aide-moi », sa paix revient. Il ne nous promet pas que la mer sera toujours calme, mais il nous promet d'être toujours avec nous, tout au long du chemin. Puis c'est là qu'on voit toute la différence. Parce que tant que Jésus est dans la barque, la tempête ne peut pas gagner. Et comme dit le cantique, « Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, jamais tout seul. » Même quand tout semble perdu, Jésus est avec nous. Sa présence suffit pour amener la paix, même au milieu des plus grandes vagues. On va poursuivre avec les miracles pour apaiser la faim. Un autre jour, sur la colline, on y retrouve une foule immense qui écoutait Jésus. Dans Luc 9, au verset 12, c'est écrit, « Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle halle dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. » Donc, ils étaient tous rassemblés ensemble, un grand nombre de personnes, car nous sommes ici dans un lieu désert. Il n'y avait pas de McDonald's proche. Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5 000 hommes. Ça fait du monde à nourrir, 5 000 hommes. J'essayais de m'imaginer comment ça pouvait coûter une épicerie pour 5 000 hommes. Ça doit être quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Et ils le firent ainsi. Ils s'assirent tous en rangée. Jésus prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ce miracle n'est pas seulement une multiplication de nourriture, parce que là où que nous voyons peu, Jésus, lui, voit l'abondance. Quand on se met des limites, Jésus, lui, voit l'occasion de manifester sa puissance. Jésus aurait pu faire apparaître du pain comme par miracle, mais il a choisi d'utiliser ce que les disciples avaient déjà. Il leur montre que la foi commence quand on accepte d'offrir qu'est-ce qu'on a, même si c'est pas grand-chose. Puis Dieu va travailler avec ça, avec qu'est-ce qu'on met à disposition de Dieu, puis il va multiplier ce qu'on a. C'est pas la taille de l'offrande qui touche Dieu, mais la sincérité avec laquelle on la lui remet. Puis c'est comme ça chaque jour de nos vies. Si on donne avec cœur, bien, Dieu va accepter cette offrande-là avec bonheur. Et les 12 paniers furent remplis à la fin, nous rappellent que Dieu donne toujours plus que ce qu'on attend. Jésus n'a pas seulement nourri la foule, mais il a laissé même des restants. C'est un signe que son amour et sa grâce ne s'épuisent jamais. On pense aussi aux vases remplis d'huile, qu'il y avait toujours de l'huile qui revenait. Mais ce surplus, c'est la preuve que quand Dieu agit, il dépasse ce qu'on a de besoin, puis il dépasse nos limites aussi, puis il a pas peur de donner. Avec lui, il y a toujours plus de paix, plus d'espérance, plus de vie. Encore aujourd'hui, il nous pose la question, qu'as-tu dans tes mains? Donc aujourd'hui, on n'a pas nécessairement 5 pains et 2 poissons, mais on a tous des talents, puis on peut mettre ces talents-là à l'œuvre, puis Dieu va pouvoir les faire valoir. Souvent, on pense qu'on a peu de choses, mais avec Jésus, ce peu de choses peut devenir immense. On va aller avec les miracles de la résurrection. Un des plus grands miracles de Jésus, c'est quand il redonne la vie. Les guérisons sont merveilleuses, les multiplications, c'est vraiment impressionnant, mais rien n'égale le moment où la mort elle-même doit s'incliner devant Jésus. Un jour, Jésus arrive dans la maison de Jaïrus, un chef de synagogue. On peut s'imaginer la scène. Tout le monde pleurait. Les pleurs remplissaient la pièce car la petite fille de Jaïrus venait de mourir. Et Jésus a dit, « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Ils pensèrent qu'il se trompait, qu'il ne comprenait pas la réalité. Mais Jésus s'approcha doucement de la jeune fille et lui dit, « Jeune fille, lève-toi. » Tout à coup, la vie revient. Ses yeux s'ouvrent, elle se redresse, et ses parents, bouleversés, la serrèrent dans leurs bras. J'aurais été vraiment bouleversé également. Je me mets à la place de ces parents-là, puis ça doit être assez incroyable comme moment. Plus tard, il y a une autre scène bouleversante qui se déroule. Et cette fois, c'est son ami Lazare qui est mort. 4 jours déjà dans le tombeau. On sait qu'après quelques jours, ça commence à avoir des odeurs moins bonnes. Puis tout espoir semble être perdu. Mais quand Jésus arrive, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, l'accueillèrent en pleurant. « Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Jésus s'avança vers le tombeau. Il fit ôter la pierre, leva les yeux vers le ciel et crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et là, contre toute attente, Lazare sortit, encore enveloppé avec des bandelettes. Mais il marche. La mort a dû se déplacer à la vie. Ces miracles ne sont pas seulement des histoires qu'on nous raconte, mais ça nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard avec Jésus. Amen. Même quand tout semble fini, il n'est jamais trop tard. La résurrection de la fille de Jaïrus et celle de Lazare annonce que même la mort n'a pas de pouvoir pour notre Dieu. Jésus a montré qu'il détient le dernier mot. Il nous promet que celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Parce que là où Jésus est présent, la mort n'a plus la fin de l'histoire. Le plus grand miracle, la transformation du cœur. Parmi tous les miracles que Jésus a fait, il y en a un qui dépasse tous les autres. Ce n'est pas celui qui impressionne les foules, ni celui qu'on raconte le plus souvent. C'est un miracle qui est invisible, qui est silencieux, qui se produit dans le secret du cœur. C'est le miracle d'une vie changée, d'un cœur renouvelé, d'une nouvelle vie. Quand un homme ou une femme accepte Jésus comme son sauveur, alors le plus grand des miracles s'accomplit. C'est pas un spectacle, c'est pas bruyant, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas une fanfare, il n'y a pas une foule alentour, mais c'est là que tout commence. On peut penser à Zachée, le collecteur d'impôts, qui était un homme riche, mais mal vu de tous, comme tous les collecteurs d'impôts. Il volait les gens, travaillait pour les Romains, et personne ne voulait lui parler. Voilà le miracle que Jésus désire encore aujourd'hui, celui d'un cœur changé, d'une vie transformée par son amour. Parce que toutes les guérisons du corps sont des signes qui conduisent à une guérison plus profonde. Tantôt, on parlait de la guérison du corps, c'est charnel, mais la plus grande guérison, c'est celle de l'âme. Quand Jésus a rendu la vue à l'aveugle, Il nous a montré qu'il peut aussi ouvrir nos yeux intérieurs pour qu'on puisse voir la lumière de Dieu. Quand il a fait marcher le paralytique, il nous a rappelé que on peut aussi se relever de nos découragements et de nos chaînes. Parce que des fois, on a de la misère à fonctionner, pas nécessairement physiquement, mais intérieurement, on a de la difficulté, mais Jésus peut agir dans ce cas-ci. Puis quand il multiplie les pains, il nous parle du pain de vie, celui qu'il a offert pour nous sur la croix, pour nous nourrir, pour nourrir nos cœurs à jamais. On va poursuivre avec la conclusion. Le Christ, Jésus, Christ, encore à l'œuvre. Les miracles de Jésus ne sont pas des souvenirs anciens. Ce sont les empreintes que Jésus nous a laissées, des instructions aussi qu'on peut soutirer de tout ce qui s'est passé. À chaque fois que quelqu'un croit, espère, pardonne ou aime malgré la douleur, bien, on voit le travail que Jésus fait en nous. Car le même Jésus marche aujourd'hui encore au milieu de nous. Il touche nos cœurs, calme nos tempêtes intérieures. Il multiplie la paix où tout semble manquer. Et il nous murmure constamment, ne crains pas, crois seulement. Le plus grand miracle, ce n'est pas ce que Jésus a fait hier, mais ce qu'il fait aujourd'hui en nous, en moi, en chacun de ceux qui lui ouvrent la porte. Alors, Seigneur Jésus qui a marché sur les eaux, notre Seigneur Jésus qui a marché sur les eaux, qui a rendu la vue aux aveugles, qui a rendu la vie aux morts, vient encore marcher avec nous à chaque jour de nos vies. Puis on peut rendre gloire à Dieu pour tous les miracles que Jésus a fait, car ça nous donne espoir, puis on souhaite encore des miracles pour les gens qui nous entourent, qui nous sont chers, qui puissent venir à l'Église, qui puissent aussi bénéficier de toute l'aide que Jésus peut nous apporter. Que Dieu vous bénisse.